Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Et bonjour à toutes et tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission du MAC de l'aménagement, du logement et de la nature, avec un numéro consacré à la dématérialisation des attestations des règles de construction portées par les ministères chargés de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Alors on va profiter de l'ouverture de la plateforme Attestation Construction pour vous présenter justement le dispositif de dématérialisation des attestations de respect des règles de la construction requises lors des demandes d'autorisation d'urbanisme. Quels sont au juste les enjeux de ces attestations qui sont jointes au permis de construire ou à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux? Quelle est également l'avancée de leur dématérialisation et quels sont les dispositifs et outils surtout mis à disposition? C'est ce que nous allons demander justement à nos invités du jour, représentant la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature au sein des ministères chargés de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Des invités que je m'empresse de vous présenter de suite. Thomas Zuelgaray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction. Gabriel Boyer-Chamard, bonjour.
Bonjour.
Chef de bureau de la performance environnementale, du bâtiment et de l'animation territoriale. Marianne Weber, bonjour.
Bonjour.
Chef de projet contrôle des règles de construction. Sylvain Pradel, bonjour.
Bonjour.
Sylvain, vous êtes chef de projet performance énergétique des bâtiments neufs. Et comme sur chaque épisode, à mes côtés, Hélène Parmentier, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Hélène, vous êtes, je rappelle, chargée de mission mobilisation des territoires, également la direction de l'aménagement du logement et de la nature pour le ministère. Bienvenue en tout cas à vous cinq. Merci d'être présents sur ce plateau pour répondre aux différentes questions qui vont se poser. Et puis je rappelle que vous, chers auditeurs, vous pouvez également poser vos questions en direct via le chat de la radio. Nos invités du jour y répondront en seconde partie d'émission. Tout à l'heure, Hélène relaiera ces mêmes questions. Allez, pour commencer peut-être, je me tourne vers vous Thomas. Est-ce qu'on peut rappeler à nos éditeurs qui écoutent en ce moment les enjeux justement défendus par les règles de construction ?
Donc effectivement, c'est un prérequis essentiel. Donc que sont les règles de construction ? C'est un corpus minimal de réglementation qui s'applique à la construction de tout bâtiment en France sur le territoire national. Règles qui sont codifiées dans le livre premier du Code de la construction et de l'habitation. Ces règles, elles visent à garantir un certain nombre d'enjeux pour les bâtiments, au premier duquel la garantir en fait la sécurité des personnes. Donc quand on dit garantir la sécurité des personnes, on parle par exemple des luttes contre l'incendie, d'éviter les effondrements évidemment de bâtiments, mais aussi la résilience des bâtiments face aux risques naturels, risques sismiques, risques cycloniques, retrait gonflement des argiles, etc. Donc l'objectif, c'est que les bâtiments ne mettent pas en danger leurs occupants. Ça, c'est le premier point. Un autre point, c'est également de garantir la salubrité et la santé des occupants. Donc on va avoir un certain nombre de règles sur la ventilation au sein des bâtiments, sur des obligations de résultat sur la qualité de l'air intérieur, sur l'humidité, sur l'accès à l'eau potable. Donc voilà, faire en sorte que les bâtiments, encore une fois, soient sûrs pour les habitants. Un troisième point, ça va être la performance énergétique et environnementale des bâtiments, qui sont assez connus au travers des réglementations, la réglementation thermique 2012 et depuis 2022, la réglementation environnementale 2020, qui vise globalement à réduire les consommations des bâtiments en France, les consommations énergétiques, mais également à limiter les impacts carbone de ces constructions. Et puis qui incite aussi les constructeurs à utiliser des matériaux durables et à faible émission, hein, comme par exemple les matériaux biosourcés, le bois ou des bétons ou aciers bas carbone. Un autre point important, c'est de garantir aussi le confort d'usage des occupants dans les bâtiments. Donc pour cela, on va avoir les questions de confort thermique, de confort acoustique, des questions de luminosité minimale obligatoire dans les bâtiments. Et puis le dernier point important, c'est l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, avec en particulier des règles sur les logements et les établissements recevant du public pour que ces personnes en situation de handicap puissent se mouvoir confortablement dans les bâtiments. Donc voilà, globalement, ce sont des règles qui sont essentielles pour garantir la durabilité et la qualité des constructions, et elles doivent être respectées par l'ensemble des intervenants dans l'acte de construire, hein, que ce soit au moment de la conception du bâtiment en phase étude, dans la réalisation, le chantier, jusqu'à l'achèvement et la livraison du bâtiment. Et donc la législation, au vu des enjeux, prévoit des mécanismes de contrôle de ces règles de construction. Et le code de la construction et de l'habitation prévoit deux types de contrôle. Le premier, le plus évident, c'est un contrôle par un agent habilité et assermenté pour contrôler ces règles, qui peut le faire sur dossier ou sur site en visitant la construction jusqu'à 6 ans après l'achèvement du bâtiment. Ce sont généralement des agents des directions départementales des territoires qui font cette mission. Et on est sur un mécanisme qui peut aller jusqu'à des sanctions pénales en cas de non-respect des règles de construction. Donc ça, c'est un niveau assez classique. Et puis, la loi prévoit un deuxième niveau qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont le régime des attestations du respect des règles de construction. Donc ce sont des attestations dont la réalisation est obligatoire, qui vise un certain nombre de champs parmi ceux que j'ai évoqués, ceux qui sont considérés comme prioritaires par la puissance publique, et qui constituent en fait une sorte de contrôle par ses pairs, de contrôle par des experts de la construction du respect de ces règles dans le cadre du chantier et de la construction. Autant le contrôle sur site, toutes les constructions de France ne font pas l'objet d'un contrôle sur site, autant les attestations sont dues par toute construction en France d'un bâtiment.
Est-ce qu'on peut rajouter autre chose sur la réalisation de ces attestations, concrètement, comment elles sont réalisées? Est-ce qu'il y a un process particulier qui est mis en place?
Alors effectivement, tout cela est codifié dans la réglementation. Donc les attestations du respect des règles de construction donc sont dues par le maître d'ouvrage, donc qui doit les commander, commander leur réalisation à des professionnels de l'acte de construire. Donc ces professionnels, pareil, qui peuvent réaliser ces attestations sont codifiés dans la réglementation. Il y a un certain nombre de professions et ça dépend du champ de l'attestation. Mais on peut citer par exemple les contrôleurs techniques du bâtiment, les architectes, des bureaux d'études spécialisés, des diagnostiqueurs pour la performance par exemple thermique des bâtiments, etc. Donc ces experts vont attester sur un certain champ des règles de construction, puisqu'il y a plusieurs attestations qui sont dues en fonction de la typologie de la construction. Et ces attestations doivent être jointes, pour certaines d'entre elles, à la demande de permis de construire. Donc là, l'objectif poursuivi, c'est de s'assurer que la construction, entre guillemets, part sur de bons rails, parce qu'on sait que une fois la construction achevée, il est difficile de revenir dessus sur certaines rubriques. Voilà, on peut penser typiquement aux règles sismiques qui sont beaucoup sur les fondations des bâtiments. Il est très difficile de réintervenir sur les fondations une fois la construction achevée. Donc le but, c'est de s'assurer que le projet parte sur de bons rails. Et puis par contre, l'ensemble des attestations sont également dues au moment de la déclaration d'achèvement des travaux, pour toutes les rubriques, pour s'assurer donc que la construction a bien respecté l'ensemble des règles listées. Ces attestations, elles bougent au cours du temps, elles s'adaptent aux évolutions réglementaires et de la société. Les dernières évolutions ont été faites dans le cadre, par exemple, de l'ordonnance de 2022. Donc c'est l'ordonnance du 29 juillet 2022 qui a introduit, par exemple, dans le champ des attestations, une nouvelle attestation sur le respect des règles relatives au retrait gonflement des argiles. On sait que c'est un sujet qui monte avec une augmentation du nombre de sécheresses à l'avenir, et donc un enjeu à ce qu'il y ait un respect de ces règles soit contrôlé. Et parfois, certaines sont supprimées parce qu'elles sont considérées comme inopérantes, parce que les règles ont été évoluées ou d'autres attestations ont pris le pas. Cette ordonnance, d'ailleurs, elle est venue aussi étendre le champ des professionnels qui peuvent réaliser ces attestations, en particulier pour les bureaux d'études. Aujourd'hui, des bureaux d'études peuvent être agréés par l'État pour réaliser certaines attestations, ce qui n'était pas nécessairement le cas précédemment. En termes de difficultés, ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que ces attestations, elles sont réalisées en gros sur papier libre ou par PDF, et elles sont jointes au format papier ou en dématérialisation, dans le cas de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Mais c'est un document qui ne sort pas du dossier de permis de construire ou du dossier de déclaration d'achèvement des travaux. Elles ne sont pas collectées, elles ne sont pas étudiées, elles ne sont pas centralisées. Et donc, on a un vrai enjeu sur la question de la valorisation des informations contenues dans ces attestations. D'ailleurs, à ce titre, l'ordonnance toujours de 2022 a prévu, dans le texte, d'améliorer la collecte et l'exploitation de ces attestations en rendant leur transmission obligatoire à un service de l'État ou un service désigné par l'État. Ce qui n'a pas encore été fait, mais le sera à l'avenir, comme on en parlera par la suite, dans le cas justement de la plateforme attestation construction. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce projet de développement de cette plateforme qui vise en gros deux enjeux. Le premier, c'est simplifier la réalisation de ces attestations par la génération automatique d'attestations au format réglementaire, avec identification des champs obligatoires, de la typologie de renseignements attendus, etc. Tout un tas de choses sur lesquelles on pourra revenir et qui doit aboutir à la dématérialisation totale de ces attestations. Et d'autre part, un enjeu aussi pour l'État et les professionnels de la construction au sens large, de collecter, centraliser l'information pour observer comment sont appliquées ces règles sur le territoire, comment sont utilisées les adaptations rendues possibles par la réglementation en fonction des typologies de construction, et donc apporter de l'information à l'ensemble du secteur pour, voilà, toujours améliorer la qualité et la sécurité des bâtiments en France.
Alors justement, de cette plateforme, continuons à en parler. Elle est disponible depuis le 3 décembre 2025. Gabriel Boyer-Chamard, je rappelle que vous êtes chef de bureau de la performance environnementale du bâtiment et l'animation territoriale. Qu'est-ce qu'il y a très concrètement sur cette plateforme ?
Alors, comme l'a dit Thomas, cette plateforme, elle a pour but de simplifier et collecter l'information. Donc, pour cela, elle a été faite avec des utilisateurs dans un mode agile pour développer au mieux les différentes fonctionnalités qui pourraient être utiles. En tout premier lieu, ainsi, on s'est rendu compte, vu la complexité qu'on peut voir quand on prend l'intégralité d'attestation, qu'il était intéressant de pouvoir centraliser les formulaires et les informations disponibles sur ces attestations pour permettre aussi bien le remplissage que la vérification de la complétude des dossiers facilement. Donc pour ça, on trouve sur cette plateforme tous les formulaires disponibles et qu'il faut remplir pour attester des règles de construction. On trouve aussi les annexes des arrêtés pris entre 2021 et 2023, puisqu'il y a eu des mises à jour au fur et à mesure en fonction des typologies de règles à contrôler. Et ça, c'est vraiment les textes réglementaires. En plus, on va trouver une FAQ qui va rassembler l'intégralité des informations concernant les attestations pour aider les maîtres d'ouvrage à comprendre en quoi elles consistent, pourquoi elles sont requises, lesquelles sont obligatoires à quel moment, pour permettre de faciliter la constitution du dossier de permis de construire et du dossier pour obtenir le papier de date d'achèvement des travaux. Cette FAQ, elle est à destination des maîtres d'ouvrage, mais aussi des personnes qui vont instruire les dossiers pour qu'elles puissent de leur côté vérifier que les dossiers sont complets. Le but, c'est que cette plateforme, elle continue à être enrichie sur ces sujets-là. Donc, y compris sur les documents qui ont besoin d'être mis en place. Après, on essaie aussi de continuer à dématérialiser d'autres formulaires et de permettre une connexion par API, puisqu'aujourd'hui, en fait, la plupart des attestations sont réalisées par des attestateurs chez eux et pas forcément sur des documents volants qui sont après transmis. Donc aujourd'hui, on essaie de connecter les logiciels existants avec la plateforme attestation construction pour, dans l'avenir, faire en sorte que toutes les attestations passent par cette plateforme-là. Enfin, toutes les attestations qui sont produites par attestation construction, elles sont collectées et référencées de façon à réaliser l'objectif de centralisation de l'information et de contrôle de ce que contiennent ces informations-là. Il y a juste une exception qui est faite pour les attestations RTRE qui sont aujourd'hui générées sur une autre plateforme, mais les deux plateformes sont reliées entre elles.
Marianne Weber, vous êtes chef de projet contrôle des règles de construction. Comment est-ce qu'il faut faire finalement pour utiliser très concrètement finalement la plateforme ?
Eh bien, c'est très simple, puisque c'est un outil tout nouveau, donc on a misé sur une grande facilité. C'est une plateforme qui est en ligne, donc si on tape dans son moteur de recherche préféré, attestation-construction, on tombe dessus, donc ça c'est pratique. Mmh. Elle est gratuite, bien évidemment, hein, et elle est sécurisée, donc avec tous les outils à disposition de l'État dans les infrastructures, donc que ce soit pour l'hébergement, la supervision, tous les antivirus y sont. Et pour la bonne sécurité de l'acte lui-même, il y a une vérification de la signature électronique avec un neurodatage qui permet de la rendre unique et identifiable à tout moment. Donc la plateforme a été homologuée par le ministère, donc elle répond complètement aux exigences de sécurité et on veillera de toute façon à continuer à offrir un outil sûr et fiable aux utilisateurs. Pour déposer une attestation, il faut tout simplement se créer un compte comme n'importe quel service en ligne. Hein. Donc l'attestateur peut choisir entre deux systèmes d'accès, soit ProConnect, soit Cerber, qui sont des grands systèmes classiques. Il se crée un compte et on lui demande pas mal de renseignements au début, parce que les renseignements qu'ils vont le mettre pour se définir dans son travail vont être réutilisés pour remplir l'attestation, donc il n'a pas à re-remplir à chaque fois sa partie. On a essayé, je dis, de faire très simple et facile. Ensuite, quand il se connecte, il choisit le modèle d'attestation qu'il veut faire, donc de l'acoustique, de l'accessibilité, du sismique. Si jamais il veut faire de la thermique, il est renvoyé sur la plateforme du générateur RTRE. Et il remplit ensuite différentes sections qui vont permettre de caractériser l'ouvrage, donc quel est le projet qui est désigné. Et puis, la partie donc attestateur est remplie automatiquement à partir de ce qu'il aura versé. Il y aura des parties plus spécialisées selon l'attestation elle-même. Donc, les attestations sont plus ou moins complexes à remplir, parce que quand c'est de l'acoustique, il y a beaucoup de mesures, de choses très techniques. Quand c'est de l'accessibilité, c'est des annexes qui peuvent être très longues, parce qu'on demande énormément de renseignements sur la taille, la hauteur des marches, les couleurs, les encadrements. Donc, ça peut être très, très long et très complexe à remplir. Donc, c'est pour ça que c'est fait par des professionnels qui ont l'habitude. Voilà, et puis quand il a fini, il y a une section conclusion où l'attestateur peut dire s'il émet des réserves sur le projet qu'il a entre les mains. C'est surtout au niveau du permis de construire, s'il manque une étude ou qui doit être faite pour compléter. Et ensuite, quand il a fini, il peut demander à signer, donc le redatage se déclenche et il peut récupérer ensuite un PDF qu'il peut remettre au maître d'ouvrage. À tout moment, il peut avoir un aperçu de ce qu'il a fait et donc ça permet de savoir si c'est bon ou non. Voilà. Il y a une connexion prévue avec France Connect, mais ça, on ne peut pas signer avec. Ce sera pour les maîtres d'ouvrage, donc ce sera dans un second temps. Mmh. Et tout au long de la saisie, il y a une aide qui permet de vérifier que c'est bon. Donc si ça apparaît en vert, c'est que c'est bien rempli. Si c'est en rouge, ça ne peut pas être signé tant validé que ce n'est pas complété. Mmh. Voilà.
Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être simple et sécurisé, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis peut-être que Hélène Parmentier nous confirmera tout à l'heure, mais il y a la possibilité évidemment sur le chat de retrouver les informations sur notamment l'adresse de la plateforme. Gabrielle, comment est-ce qu'elle va évoluer justement? Comment est-ce qu'elle est amenée à évoluer cette plateforme à l'avenir?
Alors aujourd'hui, la plateforme, elle permet déjà de générer des attestations et elle permet en partie, ou elle va bientôt très prochainement permettre de récupérer des attestations générées par d'autres logiciels ressemblants. Demain, donc c'est encore un chantier en cours puisqu'elle est très récente, elle a été lancée en décembre 2025, donc il y a encore pas mal d'étapes qui sont attendues. Et notamment, dans les évolutions rapides qu'on espère pouvoir mettre en place et très techniques pour améliorer le circuit actuel, on espère pouvoir ouvrir la plateforme au contrôleur CRC, qui pourrait comme ça avoir toute l'information rapidement disponible et centralisée pour vérifier et attester que le contenu des attestations est correctement rempli et correspond aux objectifs de qualité de la construction. Elle devrait aussi être ouverte aux maîtres d'ouvrage, puisqu'aujourd'hui elle est ouverte uniquement aux attestateurs, ceux qui vont remplir l'attestation sous contrôle du maître d'ouvrage pour attester la qualité du bâtiment. Et enfin, on souhaiterait aussi à assez court terme réaliser une intégration avec les outils de l'urbanisme et notamment tous les outils de dématérialisation des dossiers d'urbanisme. Donc cela permettrait de faciliter la vie de personnes qui doivent contrôler la complétude des dossiers d'urbanisme. Après, on a des actions qui sont à plus long terme sur cette plateforme, aussi bien sur des détails techniques, comment cette plateforme va évoluer d'un point de vue informatique, que aussi au niveau organisationnel. On a notamment des questions autour de la valorisation du contenu d'attestation, parce qu'une fois qu'on aura toutes ces informations-là, est-ce que c'est possible d'en faire quelque chose, si oui, quoi, pour améliorer le fonctionnement actuel. Mais on a aussi pas mal de questions orientées sur le système administratif. Aujourd'hui, on conserve le système actuel avec des attestations qui sont fournies au moment des dépôts des dossiers d'urbanisme. La pièce est constatée par les services instructeurs et par contre, le contrôle est fait par les contrôleurs CRC. On a prévu un décret qui pourrait permettre d'ouvrir plus de possibilités sur le devenir de ces pièces, à savoir est-ce que ces pièces elles pourraient être vérifiées directement par le contrôle ou pas. Et ça, c'est un chantier encore en cours. On n'a pas encore fixé une méthode opérationnelle qui soit finale. Et on souhaiterait notamment solliciter plus d'échanges avec l'ensemble des parties prenantes administratives, donc les services de l'urbanisme et le contrôle CRC, pour pouvoir mener à bien toutes ces réflexions.
Ouais, voilà, on voit bien que c'est récent et qu'il y a encore plein d'évolutions qui sont évidemment possibles. Je vais me tourner vers vous maintenant, Sylvain Pradel. Je rappelle que vous êtes chef de projet performance énergétique des bâtiments neufs, un générateur de prise en compte de la réglementation environnementale RE 2020 et thermique RT 2012, pardon, existe en parallèle de la plateforme attestation construction. Est-ce qu'on peut là aussi présenter peut-être son utilité?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une plateforme qui est différenciée d'attestation construction car elle est plus historique. En fait, elle date de 2012 avec l'entrée en vigueur de la RT 2012, comme son nom l'indique. Et sur cette attestation, l'objectif, c'est, enfin, sur cette plateforme, on peut générer les attestations donc des deux réglementations évoquées, la RT 2012 et la RE20, parce qu'elles coexistent actuellement, on est dans une phase de transition entre les deux. La plateforme, en fait, elle est disponible sur un site gouvernemental qui s'appelle rterebâtiment.gouv.fr. Et contrairement à attestation construction, sur cette rubrique spécifique de la performance énergétique, il est obligatoire en fait de passer par le générateur d'attestation pour obtenir les attestations conformes. Globalement, on a quand même fait en sorte qu'il y ait une bonne synergie avec attestation construction, donc il y a des liens qui permettent de passer de l'une à l'autre, avec des précisions de comment faire les attestations de la RT et de la RE 2020. La petite spécificité par rapport aux attestations qui ont été présentées précédemment, c'est que l'attestation de performance énergétique ou environnementale, en fait, va nécessiter de faire un calcul dans un moteur, dans un logiciel, en fait. Et avec le fichier de sortie de ce logiciel, vous allez le charger, l'importer dans la plateforme d'attestation et vous allez pouvoir générer l'attestation moyennant quelques rubriques complémentaires que l'attestateur, enfin la personne qui réalise l'attestation, complète. Et donc, c'est pour ça, principalement, qu'aujourd'hui, les deux plateformes ne sont pas fusionnées. C'est cette contrainte technique d'utiliser un fichier de sortie numérique d'un logiciel. Mais globalement, c'est une piste de réflexion fusionnée pour que, justement, le parcours usager d'une personne qui doit réaliser les attestations soit très clair et n'ait pas à mobiliser deux sites de l'État pour faire son projet de construction.
Que ce soit évidemment encore plus simple. Merci, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Évidemment, maintenant, on va se tourner, comme sur chacune des émissions, vers les auditeurs pour savoir s'ils ont des questions. Et j'imagine, je n'ai pas de doute là-dessus, Hélène, les questions, elles doivent être nombreuses.
Oui, Jean-Baptiste, les questions sont nombreuses. J'ai mis toutes les ressources présentées par nos invités dans le chat. Nous avons une première question. Est-ce que plusieurs personnes peuvent signer l'attestation via la plateforme?
Alors, normalement, non. Il y a une personne qui met sa signature. C'est celui, enfin, l'attestateur qui a choisi son modèle, qui remplit, il regarde, et c'est lui qui peut signer. Alors, on sait que dans des sociétés, c'est parfois un technicien qui va faire l'attestation, mais après, il va falloir que ce soit celui qui est vraiment désigné dans la plateforme qui pourra signer l'attestation et qui s'engagera pour la société.
Merci Marianne.
Deuxième question. Il faut enchaîner. Oui.
Alors, on a plusieurs auditeurs qui demandent quel est le dispositif d'information, de sensibilisation, d'accompagnement, notamment pour les professionnels et les acteurs de la construction.
Alors, pour le moment, on a fait diffuser un peu de l'information en interne. On essaie de se rapprocher aussi des services instructeurs. On a fait un petit peu de communication dans les journaux professionnels. Et on travaille avec les représentants des constructeurs, maîtres d'ouvrage, architectes, pour diffuser le message. Et on va faire une plaquette pour diffuser plus largement.
Okay. Peut-être si je peux,
compléter
le propos de Marianne, juste dire qu'effectivement la plateforme a été développée avec les fédérations représentatives des différents intervenants parmi les attestateurs. Elle a été développée donc pendant une année avec des réunions régulières et des tests par ces professionnels. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a une diversité de professionnels qui peuvent réaliser aujourd'hui ces attestations. Un certain nombre commencent à entrer dans la plateforme. Cependant, certains professionnels qui réalisent beaucoup d'attestations, que sont les contrôleurs techniques du bâtiment, eux avaient déjà développé, au vu du nombre d'attestations qu'ils réalisent, des propres outils internes sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'il est apparu, comme l'a signalé Gabriel, c'est que lorsqu'on a développé la plateforme, eux étaient embêtés parce que leur logiciel ne correspond pas exactement au fonctionnement de la plateforme, et donc devaient ressaisir, entre guillemets, à la main dans notre plateforme, les informations contenues dans ces attestations. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a temporisé sur cette plateforme, parce qu'on va ouvrir normalement là, d'ici la fin du semestre, on espère, les fameuses API, donc interconnexion avec les outils de ces contrôleurs techniques, qui pourront du coup importer automatiquement l'ensemble des attestations qu'ils réalisent, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Donc effectivement, aujourd'hui, dans la plateforme, on n'a pas encore tous les professionnels qui réalisent ces attestations qui sont entrés dans la plateforme. Et deuxièmement, peut-être pour rappeler que, en fait, l'ordonnance de 2022, elle prévoit que cette transmission devienne obligatoire. Aujourd'hui, nous, on souhaite aller pas à pas, donc on ne rend pas obligatoire l'usage de cette plateforme à ce stade, le temps que tout le monde ait le temps d'entrer dans la plateforme, de s'acculturer. Mais à terme, ça deviendra effectivement, ça a vocation à devenir l'outil de passage obligatoire pour la réalisation et la génération de ces attestations.
Et j'imagine que les fédérations avec lesquelles vous avez travaillé aussi vont communiquer d'elles-mêmes aussi sur la plateforme.
Voilà, communiquer avec leurs adhérents, mais encore une fois, effectivement, il y a une telle diversité d'acteurs, de toute taille, hein. On a des grandes entreprises, mais on a aussi des bureaux d'études individuels ou autres, hein, qui sont en capacité de réaliser ces attestations. Et donc, effectivement, on a prévu dès le début que ça prendrait un peu de temps et qu'il est nécessaire d'avoir de la communication pour que tous ces professionnels entrent dans la plateforme.
Évidemment. Une autre question, Hélène.
Et on poursuit une question pour les services instructeurs. Comment ils peuvent faire pour récupérer les attestations? Et est-ce qu'en tant qu'agent de l'État, service accessibilité, ils auront la possibilité d'accéder à la plateforme?
Eh bien, ça va être tout l'enjeu du travail qu'on va avoir avec Plateau ou ADO, les services d'instruction des permis de construire, puisque le but du jeu, dans le monde idéal de l'administration, ça serait que tout soit connecté et que du coup, une fois que l'attestation est faite, le maître d'ouvrage puisse, à partir de l'attestation de construction, verser son PDF dans son dossier en cours d'instruction. Alors, on sait que tout n'est pas dématérialisé partout dans les services instructeurs, donc il y a encore du travail aussi pour stabiliser les connexions avec Plateau et ADO. Donc, c'est tout l'enjeu du travail qui nous attend.
Peut-être aujourd'hui, parce qu'on a certainement des collectivités qui sont connectées, donc qui ont les services instructeurs des autorisations d'urbanisme, hormis pour les autorisations de compétences État. Aujourd'hui, pour elle, l'ouverture de la plateforme ne change pas fondamentalement l'instruction des dossiers de permis de construire, puisque la plateforme génère un document qui est joint au permis de construire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Par contre, effectivement, c'est un système qui est insatisfaisant à moyen terme. Le but, c'est bien d'aller vers le « dites-le-nous une fois ». Et donc, on est en train de mener des réflexions avec nos collègues des services de l'urbanisme pour voir comment, effectivement, avoir un système complètement intégré, où le service instructeur de l'urbanisme aurait accès directement aux attestations liées au projet, sans qu'il y ait cette démarche du maître d'ouvrage qui doit venir déposer son attestation dans le dossier de demande d'urbanisme. C'est un sujet qui n'est pas si évident que ça, parce que ça nécessitera aussi des évolutions réglementaires, puisque c'est cadré par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Donc on aura une évolution réglementaire à ce moment-là à prévoir, mais qui est prévue, pour faire que tout ça fonctionne correctement et simplifie la vie de tout le monde.
Allez, une dernière question, Hélène.
Dernière question. Donc, un pétitionnaire a obtenu un permis de construire en 2009 et signale seulement aujourd'hui l'achèvement des travaux, pourtant terminé en 2010. Quelles règles s'appliquent à lui pour transmettre sa déclaration d'achèvement des travaux?
Ah ben voilà un exemple bien concret.
Alors, la règle qui s'applique, je vais différencier deux choses. Les règles de construction et les attestations. Les attestations, il faut qu'ils se rapportent à la réglementation qui existe aujourd'hui dans le code de la construction et de l'habitation, qui liste les attestations qui sont dues au moment de l'achèvement des travaux, enfin de la déclaration d'achèvement des travaux, et donc ces attestations sont dues. Le problème, quand la déclaration d'achèvement des travaux arrive très tardivement, ce qui est un sujet en soi, hein, généralement un indice qu'il y a un problème avec cette construction, c'est que les règles, par contre, elles-mêmes de construction ont pu changer d'ici là. voilà. Et les règles de construction sont exigibles normalement plutôt au niveau du... Enfin, c'est au moment du permis de construire qu'on regarde quelles sont les règles de construction exigibles. Donc effectivement, il y a certains cas où on peut y avoir un hiatus avec une attestation qui est due et certaines rubriques de cette attestation demandent des champs qui n'existaient pas dans la réglementation de l'époque du permis de construire. Donc là, effectivement, c'est à l'attestateur de voir comment il remplit. Certains champs peuvent être laissés vides dans certains cas. Et sinon, on l'invite à se rapporter à la FAQ ou contacter la plateforme s'il y a un cas précis problématique sur une opération, puisque normalement, une DACT, une déclaration d'achèvement des travaux en 2026 pour un projet, un PC en 2009, c'est qu'il y a quand même sûrement un sujet.
Mais la FAQ, elle est capable de répondre à un cas précis, justement.
Alors, la FAQ, elle répond à des cas généraux. Voilà. Par contre, il y a le lien pour contacter, en fait, qui va contacter directement nos services, pour regarder s'il y a un cas en particulier qui pose question.
On a mis toutes les ressources sur le chat.
Eh bien, c'est parfait. Un grand merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci également de nous avoir suivis. Cette émission consacrée donc à la dématérialisation des attestations des règles de construction touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Émission à retrouver évidemment en podcast, comme à chaque fois, sur le site et l'application de Radio Territoria. Et là, on se dit à très bientôt.
À bientôt, je pense le 2 juin à 11h.
Eh bien, le rendez-vous, il est pris, noté sur toutes les tablettes. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, salut.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.